je remercie le Seigneur parce que à partir du moment où vous avez commencé à prier, le Seigneur a commencé à répondre au-delà même des espérances. Dieu est grand, Dieu est le Dieu qui répond à la prière. Il est le Dieu vivant. Et il dit, jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom, mais demandez et vous recevrez. Alors profitons de cette promesse extraordinaire du Seigneur. Ce matin, j'ai un passage sur mon cœur qui se trouve en Romains chapitre 13. Paul aux Romains et au chapitre 13. Versets 11 et 12. Romains 13, 11 et 12. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce passage est très clair. Dieu nous demande de nous réveiller. C'est l'heure, enfin, de vous réveiller. C'est un thème assez important dans la Bible, le réveil spirituel. Dieu dit que les gens du monde dorment. Et quand il dit qu'ils dorment, il dit qu'ils dorment spirituellement. Ils sont endormis, ils n'ont aucune vie spirituelle, aucune communion avec Dieu. Et ils ne sont pas animés par la vie de Dieu. Mais normalement, les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, eux ne doivent pas dormir. Ils doivent être éveillés pendant leur séjour sur la terre. Ici, il dit, c'est d'autant plus vrai que le salut est plus près de nous. Alors, il ne parle pas du salut de la conversion, bien sûr. Il parle du salut lorsque Christ nous ressuscitera, lorsque ce salut sera complet. Pour l'instant, nous sommes sauvés dans notre âme et notre esprit, mais notre corps, lui, reste imparfait. Nous attendons un nouveau corps, nous attendons la résurrection, nous attendons l'enlèvement lorsque nous serons dans la présence du Seigneur. Donc, il dit le salut s'approche, un jour le Seigneur va venir. Et puis il dit, il y a une autre raison pour laquelle vous devez vous réveiller du sommeil. C'est parce que la nuit avance. La nuit avance, les ténèbres avancent aussi. Nous voyons les ténèbres qui avancent, la nuit qui tombe. Alors déjà en hiver, on le ressent beaucoup, hein. La nuit tombe tôt et on a l'impression qu'on passe la journée dans la nuit. D'ailleurs, quand il fait gris comme ça, on ne voit pas la lumière du jour, on ne voit pas le soleil. C'est horrible, hein, c'est déprimant. Eh bien, d'autant plus, nous devons être des chrétiens ensoleillés, des chrétiens qui brillent, des chrétiens réveillés spirituellement parlant. Ce n'est pas le moment de dormir. Ce n'est pas le moment de se laisser aller, de baisser les bras, de dire « bon, voilà, le monde est ce qu'il est, c'est fini ». Les églises sont ce qu'elles sont, c'est fini. Non, c'est le moment, il dit, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Le réveil spirituel est quelque chose de très important, c'est une nécessité même pour les églises et pour les chrétiens. Et qu'est-ce que c'est le réveil spirituel ? Le réveil spirituel, c'est l'action de Dieu, parce que c'est Dieu qui agit, pour ramener ses enfants à une vie chrétienne normal. Pas une vie chrétienne spectaculaire, une vie chrétienne normale. Et une vie chrétienne normale, c'est une vie remplie de Dieu, remplie de l'amour de Dieu, remplie du Saint-Esprit, remplie de joie, remplie de paix, remplie d'amour pour les autres, remplie de zèle pour servir le Seigneur. Combien de chrétiens vivent cette vie chrétienne normale ? Dans le monde, probablement pas beaucoup. Pas beaucoup. Ceux qui sont le plus proches de ça, souvent, ce sont les chrétiens persécutés. Parce que pour eux, avoir la foi, c'est être en danger permanent. Et ceux qui ont choisi d'avoir la foi, eh bien, ils vivent vraiment pour le Seigneur. Mais nous, dans les pays un peu confortablement installés, nous nous endormons tranquillement. C'est Luther qui disait « Lorsque les chrétiens dorment, Satan marche sur la pointe des pieds pour ne pas les réveiller. » J'aime bien cette image. Hein? Vous imaginez le diable qui dit « Laissez-les dormir !» Et c'est triste quand l'Église dort. Le réveil n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui prient pour le réveil toute leur vie, mais en fait, ils ne comprennent pas. Le réveil, c'est passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Hein. Tous les matins, Dieu voulant, nous nous réveillons. Nous étions complètement endormis, inconscients quasiment, hein, et puis d'un seul coup, on se lève, et là, on est conscient et on commence à agir. Eh bien, le réveil spirituel, c'est la même chose. C'est un chrétien qui est là, inconscient. Il ne se passe rien, sa vie est stérile. Il n'y a plus la louange, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la paix. Il fait les choses mécaniquement. Mais quand il se réveille, quand Dieu le réveille, alors tout devient nouveau. Alors le réveil, ce n'est pas le moment le plus agréable, hein, je ne sais pas pour vous. On était bien au chaud dans son lit, on était dans les rêves peut-être, dans les bras de Morphée. Et puis il faut affronter la journée, il faut que notre corps déjà arrive à se sortir du lit. Mais une fois qu'on est réveillé, on peut y aller. Il faut y aller. Et c'est la même chose spirituellement. Le réveil, parfois, nous amène à réaliser des choses qui ne sont pas agréables à réaliser. Et quand un chrétien et une église sont réveillés, alors là, il se passe des choses extraordinaires. Là, il y a la vie de Dieu, il y a la joie, il y a l'amour, il y a des fruits, il y a des âmes sauvées, il y a des chrétiens qui se consacrent. Il se passe des choses extraordinaire. Alors, nous avons dans la Bible un réveil qui est assez particulier. C'est dans le livre d'Esdras, et si vous voulez tourner avec moi, et après on ira dans le livre de Néhémie, hein, les deux sont dans la Bible juive, c'est un seul et même livre. Esdras 1:5 d'abord, c'est après les chroniques. C'est bien de lire de temps en temps Esdras et Néhémie. C'est revigorant. Esdras 1:5, les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. À cette époque-là, Israël avait été emmené en captivité, le temple avait été détruit, la ville de Jérusalem avait été détruite, les murailles étaient effondrées, la ville était abandonnée, il y avait quelques juifs qui revenaient à Jérusalem, et Dieu a réveillé l'esprit des leaders d'Israël, les sacrificateurs, les lévites, les chefs. Qu'est-ce que ça veut dire, il a réveillé leur esprit? Il a dit, c'est pas le moment de dormir, c'est le moment de rebâtir, c'est le moment de travailler à la maison de l'Éternel. Et après aussi, on va travailler à la ville. Et c'est Néhémie qui a fait reconstruire les murailles tout autour de Jérusalem, parce qu'une ville sans murailles est une ville qui ne peut pas exister à cette époque-là. Hein. Vous êtes la proie de tous les pillages, toutes les attaques. Il faut avoir un mur d'enceinte. C'est un peu pareil pour le chrétien. Hein. C'est important d'avoir une protection, d'avoir la prière, d'avoir la sainteté qui vous protège des attaques. Et donc Dieu a réveillé leur esprit. Et Dieu veut réveiller notre esprit. Il dit même, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. La plupart des chrétiens vivent en dessous de la vie chrétienne normale. Très en dessous. Et pourquoi? Souvent c'est parce qu'on est ignorant de ce que ça peut être la vie chrétienne normale. On pense que la vie chrétienne normale, c'est aller à l'église le dimanche, et puis le reste du temps, c'est lutter pour ne pas trop pécher, et de temps en temps prier, et de temps en temps lire la Bible quand on a le temps. C'est pas ça la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est ce que vous lisez dans la Bible, c'est les premiers chrétiens des livres des Actes. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, les chrétiens là, c'est ça la vie chrétienne normale. Alors on dit, oh là là, c'est extraordinaire, c'était le début à l'époque, il y avait les apôtres. Non mais c'est toujours pareil, Dieu est le même. On cite souvent ce verset, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même, oui, et il veut être le même dans notre vie. Il veut qu'on soit éveillé, rempli de l'Esprit. Pourquoi est-ce qu'il faut se réveiller? Parce que nous avons une tendance, et ça c'est humain, Dieu le sait hein, qu'on est humain, à s'endormir. Avec le temps, on s'endort. Je ne sais pas si vous conduisez beaucoup, ceux qui conduisent beaucoup, hein, les chauffeurs de taxi, des fois on est au volant et on pique du nez. Parce qu'on s'ennuie. Là, on tourne, on avance, il n'y a rien d'extraordinaire, et puis on commence à piquer du nez. Gros danger là. Là, il faut s'arrêter et faire une micro-sieste avant d'avoir un accident. Et en tant que chrétien, on s'endort. Peut-être parce qu'on s'ennuie dans sa vie ou dans sa vie chrétienne. Et puis aussi, on s'endurcit. On s'endurcit par rapport au péché, parce qu'on commence à laisser entrer un péché, et puis deux, et puis cinq, et puis le cœur s'endurcit. On laisse entrer des idoles. Israël hein, est vraiment un exemple à ne pas suivre pour nous, mais un bon exemple à regarder dans les Écritures. Israël marchait avec Dieu, et puis après, ils ont commencé à s'endormir. Quand ils sont sortis du pays d'Égypte, oh, ils étaient tout feu, tout flamme. Et puis très vite dans le désert, ils ont commencé à murmurer, à se plaindre. Beaucoup sont morts à cause de ça, dans le désert. Et puis, il y a ceux qui ont eu la foi pour rentrer en Canaan, la terre promise. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient là. Et eux, ils étaient remplis du Seigneur, tout allait bien. Puis Dieu a dit, vous allez prendre le pays. Et puis au bout de quelques mois, quelques années, ils se sont endormis. Et les ennemis ont commencé à reprendre de la force et à les attaquer dans le livre des juges. Et qu'est-ce que Dieu a dû faire? Ils ont crié vers Dieu, Seigneur, regarde, on est attaqué. Ben oui, tu t'es endormi. Et Dieu envoie des juges pour les réveiller. Le premier, c'est Samuel. Il y en a eu d'autres, hein, l'un après l'autre, sont venus protéger, réveiller le peuple. Et chaque fois, Israël s'endort, s'endurcit. Et Dieu envoie des épreuves, des ennemis pour les réveiller. Et c'est pareil pour nous. Hein. Dieu nous aime, il veut qu'on soit réveillés. Alors si vous avez des épreuves et des problèmes, ne dites pas, Seigneur, mais pourquoi? Dites-vous, pourquoi? Pas vers Dieu, mais vers vous-même. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux me dire? Peut-être que je n'ai pas écouté ta voix. Peut-être que je me suis endurci. On devient blasé. On a moins d'amour pour Dieu. Pourtant, c'est écrit. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, timidement, tièdement, non, de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Et nous, on aime Dieu quand il nous bénit. Mais quand on n'a pas tout ce qu'on veut, quand il ne répond pas à la prière comme ça, on l'aime moins. Et puis, on s'endurcit et on aime de moins en moins Dieu. Notre louange n'est plus aussi fervente que quand on était nouveau chrétien. On devient blasé. On a moins le fardeau pour les âmes perdues. Ça, c'est un signe pour moi, qui est tout de suite, il faut faire attention. Si les gens qui ne sont pas sauvés m'énervent, et j'aurais envie que Dieu les juge tous, c'est que j'ai perdu l'amour de Christ, la compassion de Christ. C'est que je me suis refroidi, endurci. Parce que quand on a l'Esprit de Christ, on a à cœur les gens perdus. On veut qu'ils soient sauvés. Qu'est-ce qu'ont fait les premiers chrétiens dans le livre des Actes? Immédiatement, ils ont témoigné partout. À partir du moment où ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils sont allés partout. Et on les tapait, on les enfermait. Et plus on les tapait, on les enfermait, plus ils témoignaient. Parce qu'ils avaient l'amour de Christ qui les pressait. Ça, c'est la vie chrétienne normale. Le chrétien propre juste, hein, qui dit « Oh, le monde est mauvais, et moi, heureusement, je suis un bon chrétien. » Ça, ce n'est pas la vie chrétienne normale. Ça, c'est le pharisien. Le bon chrétien, c'est celui qui a l'Esprit de Christ. Il y a l'égoïsme, l'individualisme qui viennent. La France est un pays particulièrement... La culture française est particulièrement individualiste. C'est chacun pour soi. On aime beaucoup sa vie privée. Laissez-moi tranquille. Dieu, c'est à l'église, pas dehors. Hein, si vous essayez de témoigner à quelqu'un, allez dans votre église. Ne me dérangez pas. J'ai mes convictions, vous avez les vôtres. Et on devient complètement individualiste, c'est-à-dire il y a moi et puis les autres, ils peuvent mourir, ça m'est égal. On voit ça quand on conduit, chacun pour soi, on voit ça dans la foule, on voit ça dans le métro, dans le tram, on voit ça partout. Mais le chrétien, lui, ne doit pas être comme ça, il ne doit pas se laisser contaminer par cet esprit égoïste et individualiste. Et aujourd'hui, on a un troisième, c'est le narcissisme. Hein? Avec le téléphone, on se regarde en permanence. Les gens ne photographient plus, hein? Ils se auto-photographient. Hein? Les selfies, vraiment, moi ça me fait rigoler les selfies, parce que avant on prenait des photos des paysages, des gens, c'est fini ça. Non, il faut que tu sois dans la photo, et en général bien devant, et on ne voit plus le paysage, on ne voit plus les gens. Ça, c'est une déviation de ce que Dieu a voulu. Dieu veut qu'on soit généreux, Dieu veut qu'on s'occupe des autres. Aimez-vous les uns les autres, c'est le deuxième commandement. Hein. Alors regardons un peu plus le réveil au temps d'Esdras, mais cette fois-ci dans le livre de Néhémie, qui est juste après. Néhémie chapitre 8. Donc Israël était dans un état spirituel mauvais, découragé, abattu, éloigné, endurci. Et Néhémie 8 nous dit « Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, c'est à Jérusalem. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Donc ça fait plusieurs heures de lecture publique. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre, et tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Naja, Uri, Ilkija, Maaseja. À sa gauche, Pedaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashabadana, Zacharie et Meshulam. Esdras, donc tous ces hommes, en fait, Dieu avait réveillé leur esprit, hein, comme on a lu au chapitre 1, verset 5. Et c'est pour ça qu'ils étaient là devant le peuple. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent, et ils adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabetai, Odija, Maseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Voilà comment est arrivé un réveil spirituel qui est pour nous un exemple. D'après vous, ça a commencé par quoi ce réveil spirituel? Qu'est-ce qui a démarré ce réveil? La lecture de la loi. Les Juifs ne lisaient plus la Bible, soit qu'ils ne l'avaient plus parce qu'ils étaient en déportation, soit qu'ils s'étaient découragés, refroidis, et il n'y avait plus de lecture. Même le livre de la loi était presque perdu. Et les sacrificateurs ont dit, il faut revenir à la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, le peuple a été bouleversé. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'entre leur vie et ce que disait la parole de Dieu, il y avait un grand écart. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas en règle, qu'ils ne suivaient pas les paroles du Seigneur. Et c'est là que peut commencer le réveil. C'est quand on se met à lire la Bible et à mettre sa vie en conformité avec ce qu'on lit. Parce qu'on peut lire la Bible, et c'est Jacques qui dit ça, et oublier qui on était, ce qu'on a vu. C'est-à-dire, on lit, et puis on pose, et on a oublié. C'est même plus ce qu'on a lu. On n'a pas cherché à comprendre, on n'a pas cherché à appliquer. C'est pareil pour les prédications. Vous pouvez entendre 50 prédications et ne rien retenir. Alors, ça peut être aussi la faute du prédicateur, hein, qui n'a pas été peut-être assez clair. Mais Dieu veut qu'on retienne les choses et qu'on les applique dans notre vie. Et c'est là que peut commencer le réveil. Ce qui est frappant, on peut regarder maintenant les versets, le verset 9. Hein. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Les gens se sont mis à pleurer parce que leur âme était touchée, leur cœur était touché. Ça s'appelle l'humiliation et la repentance. Première chose, revenir à la parole de Dieu. Peut-être lire la Bible autrement, en lisant moins, mais en lisant mieux. Avant de commencer à lire un passage, se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? Parle-moi. » Parce que si on lit la Bible comme un livre d'histoire, à part ceux qui aiment l'histoire, c'est barbant. Mais si on lit la Bible comme le message de Dieu, Dieu veut te parler tous les jours. Imaginez qu'on ait un coup de fil avec Dieu tous les jours au téléphone. Tous les matins, Dieu dit « Tu m'appelles à 9h et on va avoir une discussion tous les deux. Ça vous plairait ou pas ? Moi, j'aimerais bien. C'est génial, quand même. Mais c'est ce que Dieu veut avoir avec la Bible. Hein. Tous les matins, on peut lire la Bible. Pas besoin de lire 50 chapitres. Vous pouvez lire un chapitre. Mais si vous le lisez en disant « Seigneur, parle-moi », Dieu va parler, hein. Et quand il parle après, nous, on dit, Seigneur, je veux dire, faire ce que tu me dis, je veux obéir. Seigneur, aide-moi à obéir aujourd'hui à cette parole, parce que moi, j'y arriverai pas. Mais toi, tu vas me rendre capable. Quand j'étais étudiant à l'Institut biblique, j'avais pas beaucoup d'années de vie chrétienne, mais j'ai commencé à m'endurcir, me refroidir. À l'Institut biblique, vous savez, il n'y a pas d'endroit pour se refroidir, hein, n'importe où. Parce qu'on était dans la Bible, dans l'évangélisation, on était tellement dans l'activité que j'avais perdu de vue le Seigneur dans tout ça. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur d'étudier une épître. Alors j'ai dit, tiens, moi j'aime bien l'épître de Pierre, je vais étudier l'épître de Pierre. Alors j'ai acheté un cahier. À cette époque-là, il y avait encore des cahiers. Ça existe encore, heureusement. Un cahier et un stylo. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de mobile. C'était une autre époque. Et j'ai pris le premier verset de 1 Pierre, chapitre 1. Je l'ai écrit, et j'ai dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire ce premier verset ? Et j'ai réfléchi. Au début, c'était un peu dur. Puis j'ai dit, est-ce qu'il y a un autre verset qui est en parallèle, peut-être ? Puis j'ai regardé dans ma Bible, vous savez, dans certaines Bibles, il y a des parallèles. Ah tiens, je vais aller voir là. Et puis, bon an, mal an, en réfléchissant, en demandant au Seigneur, les idées arrivent. Et puis j'ai écrit un petit texte, et donc j'ai tout écrit, et à la fin j'ai fait une prière. « Seigneur, tu m'as parlé sur ce sujet, merci, aide-moi à le mettre en pratique. » Et le lendemain, j'ai pris le verset 2, et le lendemain, j'ai pris le verset 3. Et j'ai fait ça tous les jours. Et à chaque fois, j'ai fait une prière par rapport à ce que Dieu m'avait montré dans le verset. Il y a des versets qui ne me plaisaient pas trop, il y a des versets, je ne savais pas par où commencer. Et chaque fois, Dieu a pourvu, chaque fois, j'ai été béni par les versets de l'épître de Pierre. Et quand j'ai fini l'épître de Pierre, j'ai regardé à nouveau les prières que j'avais écrites, et Dieu avait répondu à toutes les prières. Il avait commencé à changer mon cœur, à changer ma vie, à me rendre plus profond, plus sérieux, plus obéissant, plus aimant. Je voyais l'œuvre de Dieu, mais a posteriori. Mais ça a commencé avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui attendent le réveil comme ça leur tombe dessus, ça y est, je suis un nouvel homme, une nouvelle femme. Vous pouvez attendre longtemps. Il faut que le Seigneur nous convainque, nous amène à la repentance. Mais il y a une deuxième chose après la repentance, et c'est au chapitre 9 de Néhémie. Toujours chapitre... l'épître ou le livre de Néhémie, chapitre 9, le 24e jour du même mois. Donc, quelque temps après avoir eu ce moment de repentance en écoutant la parole de Dieu. Les enfants d'Israël s'assemblèrent à nouveau et revêtus de sacs et couverts de poussière. Ça, c'est le signe chez les Juifs de la repentance. Hein. On mettait un sac et puis on se mettait de la cendre ou de la poussière pour vraiment montrer son humiliation. On déchirait ses vêtements aussi. Ceux qui étaient pour la célébration d'un jeûne, ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et ils adorèrent l'Éternel leur Dieu. Donc ça, c'est quelque chose déjà. Ils relisent encore. Ils ne sont pas dit, ça y est, on a lu un bon moment avec Esdras, maintenant c'est terminé, je pense qu'on a assez lu. Non. Ils n'ont pas fini, ils ont cette soif. Ils veulent entendre la parole de Dieu. Et quand ils l'entendent, ils confessent leurs péchés. Et après avoir confessé leurs péchés, qu'est-ce qu'ils font? Verset 3. Après avoir confessé, ils se prosternent, ils adorent le Seigneur. La vraie adoration, elle commence avec la confession des péchés, avec la reconnaissance de notre faiblesse et impureté et le pardon de Dieu. Quand le pardon de Dieu vient dans mon cœur, là j'adore. C'est à le dire, j'adore le Seigneur. Ce n'était pas une adoration formelle, rituelle, hein, qu'ils pouvaient avoir, non, c'était une adoration du cœur, parce que le Seigneur les avait pardonnés. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se repente pour nous frapper, hein. Dieu nous aime, il veut qu'on se repente pour être purifié et pour nous remplir. Il ne peut pas nous remplir tant qu'on est rempli de péchés et d'idoles, il n'y a pas la place. Il faut nettoyer tout ça pour que l'amour de Dieu, l'esprit de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu nous remplissent. Mais ils avaient fait quelque chose de particulier, c'est qu'ils avaient, vous avez vu, ils s'étaient séparés de tous les étrangers. Pourquoi? Parce que les hommes avaient épousé des femmes étrangères dans le pays. Or, la loi, et notamment Deutéronome chapitre 7, dit clairement aux Israélites, vous ne vous mariez pas avec les étrangères et qui ont d'autres dieux, parce qu'elles vous entraîneront vers d'autres dieux. Le plus grand désobéissant à ça, c'est le roi Salomon. Il a accumulé des femmes étrangères et il s'est tourné vers leur faux Dieu, malheureusement. Et donc Dieu avait dit à Israël, ne le faites pas. Et ils l'ont fait, parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans le livre de Néhémie, dans le livre d'Esdras? Ils se sont séparés de leurs femmes et de leurs enfants. Alors attention, Dieu ne nous demande, si par exemple vous avez épousé quelqu'un qui n'est pas chrétien, Dieu ne vous demande pas de divorcer. Ça c'est l'Ancien Testament, c'est Israël. Dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 7, il dit, si vous êtes marié avec un non-croyant, si le non-croyant veut rester, restez, qu'il reste. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare, vous êtes libre. Ça c'est le Nouveau Testament. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne cette histoire où ils se sont séparés? C'est qu'ils ont appliqué la parole de Dieu. Ils ont mis leur vie en règle. C'est ça la leçon. C'est que, et c'était dur, j'imagine, de se séparer de leur épouse, de leurs enfants, de dire, écoutez, j'ai fait une erreur, j'ai fait un péché, je n'aurais jamais dû t'épouser, j'aurais jamais dû fonder une famille avec toi, et je te demande, je me sépare, je m'en vais. Alors ça devait être fait selon la loi de Moïse, il fallait faire une lettre de divorce, il y avait tout un processus, hein, ça ne se faisait pas comme ça, mais il y avait quand même un divorce qui s'est passé. C'était violent, hein, mais ils étaient prêts à faire ça pour suivre le Seigneur. Nous, ce que Dieu nous demande, nous, c'est pas de nous séparer d'une personne, c'est de nous séparer des idoles, de nous séparer des péchés. Il y a des péchés mignons qu'on a gardés et on est marié avec, hein. Ce péché, il est avec moi, il m'accompagne tout le temps, il est là. Des fois, j'ai essayé de m'en débarrasser, mais au fond, je l'aime bien, au fond, j'y tiens. Je ne veux pas m'en débarrasser. Et quand vous entendez la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible et que Dieu réveille votre esprit, là, vous dites, c'est fini avec ce péché. C'est pas possible. Je ne peux pas être un chrétien et vivre dans ce péché-là. Je ne peux pas être un chrétien et avoir des idoles. Et là, il y a un réveil. Vous réalisez, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu faire? Comment j'ai pu laisser ça dans ma vie? Imaginez que Dieu expose nos péchés. Il y a des hackers qui arrivent à rentrer dans les ordinateurs. Imaginez que Dieu rentre dans nos vies et il expose nos péchés. Nous aurions honte. Mais il vaut mieux avoir honte maintenant et abandonner ses péchés, ses idoles. Parce que c'est ça la vie chrétienne normale. Et c'est pour ça que Dieu réveille les gens. Comment faire pour obéir à Dieu qui dit « c'est l'heure de vous réveiller » ? Très souvent, et la plupart du temps, les réveils sont venus, ont commencé par la prière. Il y a un certain nombre de chrétiens, un petit nombre, parfois c'était une personne dans une église, qui a commencé à prier, dire « Seigneur, nous ne sommes pas purs. Seigneur, nous ne sommes pas saints. Seigneur, nous ne sommes pas comme tu voudrais que nous soyons. Nous sommes en dessous. Seigneur, interviens. » Et cette personne s'est mise à intercéder pour elle et pour son église. Et il y avait ce fardeau, c'est un fardeau, quelque chose presque de très dur à supporter, hein, de prier pour ça. Et Dieu a commencé à agir. Il a réveillé l'un après l'autre. La réunion de prière a commencé à grandir. Et d'autres se sont joints. En 1904, au pays de Galles, donc c'est pas loin de chez nous, hein, le pays de Galles, il y a eu un grand réveil dans tout le pays. C'est pas juste dans une église, c'est dans tout le pays. Les historiens estiment qu'il y a eu 100 000 environ conversions pendant l'année 1904. 100 000 conversions. C'était un pays de mineurs à l'époque, hein, encore aujourd'hui un peu, mais les mines ont beaucoup fermé. Donc les mineurs, c'était des gens, des durs à cuire, hein, la vie était dure, vous aviez une vie assez raccourcie. Ils buvaient beaucoup d'alcool, ils frappaient leurs femmes, leurs enfants, ils juraient. Ils avaient des animaux pour tirer les petits wagons, hein, avec le charbon. Ils les frappaient jusqu'au sang, ils les insultaient. C'était des gens très durs. Et puis, le dimanche, on allait au pub où il y avait le match de foot ou de rugby. L'église, pas trop. Et puis un jour, il y a eu un groupe de jeunes dans une église. Des petits jeunes, ils avaient entre 16 et 18 ans. Et ils ont dit, Seigneur, il doit y avoir autre chose que ce qu'on... Là, leur église, c'était un peu mort, c'était endormi, quoi. C'est pas possible, il doit y avoir autre chose. Ils sont mis à prier. Ils sont mis à apprendre des chants. Les Gallois aiment beaucoup chanter, ils chantent très bien. Des chants gaéliques. Et ils ont prié. Et puis un jour, parmi eux, il y a eu un jeune homme, un jeune mineur, donc qui travaillait dans la mine. Il s'appelait Evan Roberts. Un petit jeune, là aussi. Et il a fait partie de ce groupe de jeunes. Et Dieu a réveillé son esprit. Et un jour, pendant un culte, le pasteur dit, qui veut partager quelque chose? Il s'est levé, il a dit, le Seigneur a touché mon cœur. Je lui ai confessé mes péchés, et il m'a pardonné, et je veux rendre grâce à Dieu. Il n'a rien dit d'extraordinaire. Hein, mais après avoir dit ça, une autre personne s'est levée, il a dit, le Saint-Esprit me touche. Je suis pécheur moi aussi, j'ai besoin que Dieu me purifie. Et puis l'un après l'autre. Et ensuite, ça s'est répandu dans d'autres églises. Et il y a des gens qui venaient le dimanche faire la queue dans des petites salles. Hein, c'était des salles plus petites qu'ici. Et les gens faisaient la queue pour aller se confesser leurs péchés devant le Seigneur et être sauvés. Les pubs se vidaient le dimanche, il n'y avait plus de clients. Les animaux dans les mines n'étaient plus frappés et insultés. Et un historien a dit, les mineurs leur donnaient des ordres, mais ils ne comprenaient pas parce que d'habitude les ordres c'était avec des insultes, avec des jurons, des gros mots. Et là, ils n'avaient plus ça. Donc le cheval, il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Et ils aimaient leurs femmes, ils aimaient leurs enfants. Ils ne buvaient plus d'alcool. Et ils allaient à l'église avec la joie. Il y a des cultes qui ont eu lieu à ce moment-là toute la nuit. Il n'y avait pas un pasteur. Le pasteur était là, mais il n'a rien dirigé. Il était là sur sa chaise et c'est le Saint-Esprit qui a pris en main la réunion. Les gens ont commencé à chanter et puis à pleurer et à se confesser, puis à chanter, à se réjouir, puis à pleurer. Certains tombaient à genoux tellement ils étaient touchés par leur péché. C'est le réveil du Pays de Galles. Et ça a commencé par un petit groupe de jeunes. Il y a des réveils en Asie qui ont commencé comme ça aussi. En Indonésie, des réveils en Corée, des réveils en Afrique. Partout, il y a eu des réveils. Même en France, il y a eu un réveil à Paris. Il y a eu des petits réveils, notamment avec la fille de William Booth, le fondateur de l'Armée du Salut. Elle prêchait l'Évangile dans une salle à Paris. Et il y a eu un mini-réveil des dizaines de gens, de SDF et de gens criminels, d'alcooliques, se sont convertis sous l'impulsion de cette femme qui prêchait l'Évangile. Quand on commence à prier, les choses bougent. Et j'aimerais vous laisser trois choses ce matin pour commencer le réveil. Trois étapes. Romains 12, verset 1 nous dit, c'est un ordre aussi, hein, mais un ordre d'encouragement par l'apôtre Paul, inspiré. Je vous exhorte donc, Romains 12, verset 1, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On voit encore la vie chrétienne normale. Le culte normal, c'est quoi? C'est de chauffer une chaise à l'église? Le culte normal, c'est de se consacrer à 100%. Offrir vos corps, c'est une façon de dire, devenez un holocauste, mais vivant, bien sûr, on ne va pas se suicider. Hein. On est des sacrifices vivants, des holocaustes. Et justement, il y a l'image de l'holocauste dans le Lévitique chapitre 6. Lévitique chapitre 6, comment offrir l'holocauste? Et il y avait deux choses à faire principalement. Verset 2, donne cet ordre à Aaron, Lévitique 6, 2, et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste, ça veut dire, c'est un sacrifice entièrement consumé, avec les entrailles, avec tout. La plupart des sacrifices, on brûlait la peau et les intestins et la tête, mais on gardait le reste pour la viande. C'était le repas des prêtres et le repas des gens qui donnaient un sacrifice. Mais l'Holocauste était entièrement offert et brûlé. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, il mettra des caleçons sur sa chair, il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel et puis il portera la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra pas. Il y a deux choses là. Il y a offrir l'Holocauste et enlever les cendres. Offrir l'Holocauste, c'est s'offrir à Dieu. S'il y a quelqu'un qui a le droit de prendre notre vie, c'est Dieu. D'ailleurs, un jour, il la reprendra. Hein. Un jour, il dira, bon, ben, c'est l'heure. Tu t'en vas. Tu vas avec moi au ciel. Mais même sur terre, avant de mourir, Dieu a le droit d'avoir notre vie. Il est dit qu'on ne s'appartient plus à soi-même. C'est écrit dans la Bible. Ça, c'est des versets qu'on n'aime pas trop. Hein. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ben si, quand même. Et quand on se réveille, on dit, Seigneur, je ne veux plus m'appartenir à moi parce que je fais n'importe quoi, moi, avec ma vie. Je veux t'appartenir à 100%. Ça ne veut pas dire que vous quittez votre boulot, votre famille, que vous allez dans le désert. Hein. Ce n'est pas ça, se consacrer. C'est le cœur qui se consacre. Seigneur, je veux être tout à toi. Je ne veux pas qu'il y ait une idole, un péché qui reste là. Bien sûr, ça m'arrivera de tomber de temps en temps, je vais me mettre en colère, ou je ne sais pas, je vais m'énerver, je vais dire une bêtise. Ça arrive de tomber dans le péché. Mais de garder des péchés et des idoles, ça, Dieu ne le veut pas, et ce n'est pas la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est d'être consacré, d'être un holocauste. Mais il faut enlever les cendres. C'est quoi les cendres? Les cendres, c'est l'image des défaites et des victoires passées. Les cendres, c'est ce qui reste, hein, et qui va empêcher le feu de brûler. Les cendres, ça étouffe. Et donc, il faut les enlever. C'est-à-dire ma consécration d'hier, mes victoires d'hier. Ben, c'est hier. Mais il y a aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. Parce qu'il y a des chrétiens qui vivent sur leur passé. Ah là là, quand j'étais jeune, j'étais rempli, je faisais ci, j'ai fait ça. Ben, oui, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Ah, aujourd'hui, j'ai mal au dos. Non, c'est aujourd'hui qu'on doit vivre pour le Seigneur. C'est aujourd'hui qu'on doit se consacrer. Il faut enlever les cendres du passé. Le passé, c'est le passé. Et puis, il y a les cendres des défaites aussi. Les cendres, lorsqu'on a été déçu, lorsqu'on a été découragé, lorsqu'on a chuté, parfois, on peut garder ça en disant « Je ne suis pas digne, je suis un mauvais chrétien. J'ai fait ça et ça. » Mais sache que le Seigneur te pardonne, te purifie. Il a dit « J'oublierai vos transgressions. » Il faut démarrer aujourd'hui avec le pardon de Dieu, avec un cœur pur. Tu n'as pas à porter la culpabilité toute ta vie. Dieu veut l'enlever, cette culpabilité, pour que tu sois libre et que tu puisses brûler ardemment. Le feu ne s'éteigne pas. C'est un feu miraculeux, c'est le feu que Dieu allumait. D'ailleurs, un jour, les prêtres ont voulu allumer leur propre feu et Dieu les a jugés sévèrement, hein. Le feu devait venir de l'Éternel. La vie que nous avons, la vie spirituelle, ce n'est pas nous qui l'alimentons, hein, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut que le Saint-Esprit, il ait la place. Il faut que le Saint-Esprit, il puisse brûler sans qu'il y ait des cendres qui l'étouffent. S'il y a 50 idoles dans ma vie, le Saint-Esprit, il va dire, ben, je suis un peu seul là. Hein. Il y a beaucoup d'idoles ici. Et il faut enlever les idoles. Il faut les déposer aux pieds du Seigneur et se consacrer à Dieu. Et quand on se consacre à Dieu, alors il se passe des choses. Quand on revient à la vie chrétienne normale, le feu brûle. Vous vous rappelez les pèlerins d'Emmaüs, les deux qui marchaient après la crucifixion sur le chemin d'Emmaüs? C'était un homme et une femme, hein, probablement le mari et sa femme. Ils marchaient, ils étaient tristes, ils étaient abattus. Et Jésus vient marcher à côté d'eux. Ils ne savent pas que c'est Jésus. Et Jésus leur dit, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air tout triste. Ben, il dit, oui, on croyait que Jésus de Nazareth était le Messie. Puis voilà, il est crucifié, c'est fini. Maintenant, il est mort, il est enterré. Et Jésus parle avec eux. Et à un moment, Jésus montre tout ce qui est question de lui dans les Écritures. Et il prend le pain au repas avec eux. Il rompt le pain. Et il disparaît. Et là, ils comprennent que c'était le Seigneur Jésus ressuscité qui était là. Et ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous expliquait ce qui était question de lui dans les Écritures? Relisez Luc 24, je pense. Notre cœur ne brûlait-il pas? Est-ce que votre cœur brûle d'amour pour Dieu? Est-ce que votre cœur brûle d'amour pour les frères et sœurs, pour votre Église? Est-ce que votre cœur brûle d'amour pour les âmes perdues, pour votre famille qui n'est pas sauvée? Vos parents, vos enfants, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos voisins, vos collègues? Est-ce que votre cœur brûle? Le Seigneur peut faire ça, mais il faut enlever les cendres, il faut enlever les idoles, les victoires, les défaites. Il faut revenir à la parole de Dieu. Et là, quand on est rempli du Seigneur, on a cet amour, cette joie, cette paix. Peu importe ce qui vous arrive, blindé, inarrêtable. Et le péché n'arrive plus à vous avoir. Avant, c'est une rigolade, la moindre tentation, plaf, je tombais. Mais quand je suis rempli du Seigneur, le péché n'a plus de place, je suis rempli déjà. Comprenez ça. Quand on est rempli du Seigneur, les idoles et le péché n'ont plus de place. Les mauvaises pensées n'ont plus de place. Et on a tout l'amour de Dieu là. Et on ne s'ennuie pas, parce que l'amour de Dieu est infini. Et c'est merveilleux de connaître le Seigneur comme ça. Alors je vous propose qu'on ait juste un petit temps de prière. Je sais qu'après il y aura le repas du Seigneur. Mais prenons ce temps de prière. De toute façon, avant le repas du Seigneur, c'est bon de confesser ses péchés. Alors, faisons mieux que ça. Confessons tous nos péchés. Et délaissons tous nos péchés au pied de la croix et nos idoles.